Émission spéciale. Appel sur l'actualité est à Abidjan. Juan Gomez.
Et nous poursuivons notre débat sur la crédibilité de la CEDEAO. L'organisation ouest-africaine célèbre aujourd'hui ses 50 ans dans un contexte de crise. Non seulement des régimes militaires sont au pouvoir dans 4 pays de la sous-région, 3 d'entre eux, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, ont d'ailleurs quitté la communauté, mais auprès des opinions publiques, la CEDEAO est considérée, à tort ou à raison, comme inefficace. Elle n'a jamais été aussi impopulaire. Et en cette journée d'anniversaire, eh bien, nous dressons ensemble le bilan, les avancées, les échecs, les défis à relever pour tenter de renouer la confiance entre l'institution et les populations. Pour en débattre avec vous ce matin, 3 invités. Adama Ouattara Katié Néfoua, directeur général des politiques d'intégration au ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Oswald Padenou, enseignant-chercheur en sciences politiques, spécialiste des questions de sécurité. Et Abdourahmane Bari, docteur en sociologie politique, consultant et analyste politique. Nous avons, durant la première partie de l'émission, beaucoup parlé de l'aspect politique de l'organisation ouest-africaine. Il y a, j'ai envie de dire, heureusement, d'autres thématiques qui intéressent nos auditeurs. Casimir, bonjour.
Oui, bonjour, Juan.
Merci de nous suivre sur les réseaux sociaux. Vous êtes à Bobo-Dioulasso, au Burkina Faso. Vous souhaitiez parler sécurité.
Eh oui. Beaucoup de sécurité, et vous voyez bien que tout le monde le dit, hein, l'impopularité de la CEDEAO, sinon le rejet de la CEDEAO au niveau de la Confédération de l'AES, s'explique par une seule chose, le manque de solidarité de cette CEDEAO, cette famille qui est censée aider tous ses membres. Et si nous le rappelons bien, dans les années 90, les Comores, qui est une force d'intervention de la CEDEAO, a aidé le Libéria, a aidé la Sierra Leone à retrouver la paix. Pourquoi donc, face au péril terroriste qui menaçait même l'existence des 3 pays que sont le Mali, le Burkina et le Niger, la CEDEAO est restée loin, au contraire, elle a passé tout le temps à nous condamner, Non, on ne choisit pas un régime parce qu'on le veut, mais on choisit un régime pour chercher la survie du pays d'abord. C'est parce que le pays existe qu'il peut être en collaboration avec d'autres dans une structure appelée CEDEAO.
Alors la CEDEAO n'est pas intervenue en tant que telle pour aider notamment votre pays à lutter contre les violences des groupes djihadistes, mais Oswald Padenou, je vous observais quand Casimir nous parlait, vous leviez les yeux au ciel. Il y a du vrai, mais aussi il y a du faux dans ce que nous dit Casimir.
Oui, c'est ce que je commençais à dire. Je pense que factuellement, la CEDEAO, avec le concours du Burkina Faso et du Niger et d'autres États, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, étaient intervenus. Il y a eu une mission de la CEDEAO pendant une année au Mali avant que le relais ne soit passé en 2013 à la mission des Nations Unies parce qu'il y a une question de capacité à financer, à soutenir la mission sur la durée. Mais évidemment, les choses ont beaucoup changé entre 2013 et 2023 où on a eu des coups d'État dans ces pays-là. Non, je pense qu'il ne faut pas ni voir le verre à moitié vide ou à moitié plein ou chercher nécessairement un bouc émissaire. La situation sécuritaire au Sahel, c'est une situation qui intéresse, qui préoccupe l'ensemble de la région.
Abdourahmane Bari, la CEDEAO aurait pu effectivement déployer cette force ECOMOG pour aider les pays sahéliens à lutter contre les violences djihadistes. Elle ne l'a pas fait.
Mais écoutez, je pense que Oswald l'a bien résumé. C'est vrai que ECOMOG n'a pas été déployé au Sahel, mais il y a quand même eu des bataillons de chacun des pays, le Nigeria, le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, avant que ça change, le Niger, pareillement. Et il y a eu le G5 Sahel, il y a eu des mécanismes qui ont été mis en place pour lutter contre le terrorisme. Et même d'État à État, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, je pense que le capitaine Traoré lui-même l'a reconnu à un moment donné, la Côte d'Ivoire a fourni du matériel militaire au Burkina à hauteur de 2 milliards de francs CFA. Il y a eu des opérations militaires conjointes, l'opération Komoué, au niveau du nord, entre les armées burkinabées et ivoiriennes. Il y a eu des coopérations entre les armées maliennes et ivoiriennes. Donc, il y a eu des choses qui se sont faites. Mais il ne faut pas tout noircir, quand même.
Adama Ouattara, du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire.
Oui, je pense que la CEDEAO a joué son rôle. La CEDEAO a mis à disposition des 3 pays pratiquement 100 millions de dollars pour lutter contre, former les armées, apporter l'équipement nécessaire. Mais la difficulté de la lutte contre le terrorisme a été vraiment le point d'Achille de la CEDEAO. On ne peut pas dire aujourd'hui que la CEDEAO n'a pas été solidaire. Je pense que la situation sécurité a exacerbé les relations des négociations entre la CEDEAO et les États comme le Mali, le Burkina, durant cette période. Il n'est pas, la CEDEAO a mis en place un dispositif qu'on appelle le dispositif la force en attente, qui aujourd'hui, effectivement, a une difficulté, c'est vrai, une question de financement,
mais certains vous diront, des ressources. Cette force, elle ne fait qu'attendre. Pourquoi n'intervient-elle pas ?
Non, elle attend parce que le rôle de cette force, c'est de renforcer les États. Ce n'est pas d'aller lutter contre les États. D'abord, c'est la première des choses, c'est d'abord aux armées burkinabées, à qui, aux armées maliennes, au Niger, que ces forces doivent apporter de l'appui. Mais elles ne viennent pas lutter à la place de ces États-là.
Allez, on repasse au standard. Il y a beaucoup d'auditeurs ce matin à l'occasion des 50 ans de la CEDEAO. Bonjour Élisée.
Bonjour Juan, bonjour à tous vos invités sur le plateau.
Vous êtes à Cotonou et vous souhaitez nous parler de la libre circulation. Vous disiez au standard, voilà un point positif.
Ah oui, la CEDEAO est la meilleure organisation sous-régionale au niveau des 5 pôles régionaux de l'Afrique. J'en veux pour preuve l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Juan, je peux circuler, je peux quitter Cotonou, m'installer à Abidjan ou à Dakar sans contrainte, hein, vivre et mener mes activités comme si j'étais à Cotonou. Je pense que la CEDEAO, en matière d'intégration, a fait beaucoup d'efforts et c'est un marché économique de plus de 300 millions d'habitants. La coopération, l'intégration entre les États membres est une réalité. Il est vrai qu'il reste des choses à améliorer, mais il faut dire que le départ des trois pays de l'AES fragilise aujourd'hui cette organisation qui a su implanter les bases d'une intégration sous-régionale.
Mais vous craignez, Élisée, que l'AES fragilise la libre circulation des biens et des personnes au sein de l'Afrique de l'Ouest ?
Oui, bien sûr, parce que ils ont créé une autre organisation. On ne sait pas encore sur quelle base les deux organisations pourront coopérer. Est-ce qu'ils vont accepter que la libre circulation des personnes et des biens telle que convenue au départ au sein de l'organisation CEDEAO pourra continuer? Est-ce qu'ils vont se replier sur eux-mêmes et ne plus laisser les autres citoyens, je veux dire le Bénin, la Côte d'Ivoire, les citoyens de ces pays-là, aller librement dans ces pays-là?
Oui, ce sont de vraies questions, évidemment. On va voir si Adama Ouattara a déjà un élément de réponse, directeur général des politiques d'intégration au ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire. Est-ce que la libre circulation des personnes n'est pas compromise depuis la création de l'AES ?
En l'état actuel des choses, la libre circulation des biens et des personnes n'est pas compromise, dans ce sens que les deux entités, la Confédération de l'AES et la CEDEAO, ont affirmé une volonté franche, sincère, fraternelle de discuter de toutes ces modalités. Il y a même un plan de contingence que la CEDEAO a élaboré afin que la libre circulation des biens et des personnes, qui est l'une des réussites, l'une des grandes réussites.
Ça, c'est le point positif qui revient dans les propos de tous les auditeurs.
Il y a beaucoup de points positifs.
On va prendre Alfred dans un instant, aussi nous interpelle sur la libre circulation et il a quelques anecdotes à nous raconter. Bonjour Alfred.
Bonjour Anne.
Vous êtes à Lomé, racontez-nous.
Par rapport aux tracasseries douanières au niveau des frontières, mais j'étais en train de sourire quand j'entendais vos invités sur le plateau dire que tout va bien, alors que tout ne va pas du tout bien. Je donne juste l'exemple de la frontière à Daflaou, Lomé, Togo-Ghana.
Oui.
Mais au niveau de la frontière à Flaou, Togo-Ghana, à cet instant où nous sommes en train de parler, ils peuvent vérifier. Ils n'ont qu'à laisser les passeports diplomatiques et utiliser la carte d'identité. Même avec la carte d'identité CEDEAO, tu payes 2000 francs CFA, l'équivalent de 3 euros. Mais cela voudrait dire que la CEDEAO a échoué sur le plan de l'intégration, bien de la liste de classement des personnes et des biens. Je voudrais faire la comparaison entre la CEDEAO et l'Union européenne, par exemple. Quand un citoyen d'un autre pays ou bien de hors Union européenne vient, rentre sur le territoire de l'Union européenne, mais il a une libre circulation du moment où on lui a donné un laissez-passer pour circuler, alors que ce n'est pas le cas au niveau de la CEDEAO.
Abdourahmane Barry, vous écoutiez attentivement Alfred Alomé. Ces tracasseries à la frontière, vous les avez vous-même connues ou pas ? Oui, vous dites oui de la tête.
Tout à fait, je l'ai connu. Je pense que l'auditeur touche un problème. Vous savez, la libre circulation des personnes et des biens, c'est un processus sur le long terme. Il faut beaucoup de choses parce que les États sont jaloux de leur souveraineté. Ça aussi, c'est une réalité. Maintenant, là où la CEDEAO doit complètement se démarquer pour changer de logiciel, à mon avis, c'est de créer des mécanismes pour renforcer et surtout, même, pourquoi pas, lever complètement les barrières douanières pour que la vendeuse d'Atiké, par exemple, d'Abidjan, puisse aller vendre à Conakry, le vendeur de Conakry puisse aller vendre à Dakar. Vous verrez que tous ces discours, tous ces narratifs qui tendent à dire que la CEDEAO est mauvaise vont changer parce que les populations vont sentir l'impact direct. Oui, l'impact direct a été ressenti à travers le passeport. Donc, il faut dépasser maintenant le passeport pour passer à une intégration économique. Et je pense que si on réussit l'intégration économique, tous ces discours, tous ces narratifs qui sous-tendent que la CEDEAO est manipulée, elle est ceci, elle est cela, vont disparaître. Mais l'auditeur a touché une réalité qui est
une réalité
vécu,
qui est partagée par de nombreux auditeurs sur nos réseaux sociaux. On repasse au standard avec nous, Adama. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Adama, merci d'être avec nous. Vous êtes à Dakar, au Sénégal. Vous souhaitez nous parler des projets communs au sein de la CEDEAO?
Oui, exactement. Je pense, à mon avis, que quand on est des pays économiquement faibles comme ceux de la CEDEAO, on gagnerait énormément à développer des projets communs, des grands chantiers, au niveau de l'intégration économique par le développement tout simplement de poules, par exemple. On a dans le volet transport, l'énergie, les recherches. Si chaque pays veut développer de façon nationale à son propre niveau, l'impact au niveau intégration va être moindre.
C'est-à-dire qu'il faudrait, par exemple, que chaque pays développe son propre réseau ferroviaire et ensuite le connecter entre les États membres, par exemple. S'il fallait prendre comme ça un projet...
Par exemple, faire des interconnexions, par exemple, au niveau transport aérien, au niveau chemin de fer... Parce qu'un développement est toujours soutenu quand même par des moteurs. Et donc, il faut ces genres de pôles régionaux pour soutenir le développement au sein de la CEDEAO.
Vous faites l'unanimité autour de la table, Adama. Monsieur Ouattara, justement, que pensez-vous des propos de cette auditrice du Sénégal?
Oui, c'est important aussi de préciser que la CEDEAO a, dans son vécu, mis en œuvre des projets d'interconnexion électrique, oui. Beaucoup de projets.
Mais tout ça reste du projet, monsieur Ouattara.
Non, c'est des projets en cours, s'il vous plaît. Oui. Je pense que Juan Gomez, ce n'est pas des projets qui s'exécutent dans 48 heures.
J'ai bien conscience.
Des projets qui suscitent beaucoup d'investissements, qui suscitent beaucoup de travaux de recherche.
Je vous donne un chiffre, monsieur Ouattara, factuel. 220 millions de personnes vivent aujourd'hui sans électricité dans la sous-région.
La CEDEAO est un défi. La CEDEAO construit. Les pères fondateurs ont construit la CEDEAO. Et face aux difficultés, les États, ce sont les États qui font la CEDEAO. La CEDEAO vit sur la base des prélèvements communautaires, sur la base des cotisations des États. Mais ensuite, je pense que les défis à relever pour la CEDEAO, c'est de réussir à mettre en place un système de financement de ces grands projets qui sont des projets lourds d'investissement.
Alors, il y a un autre sujet qui fait polémique et qui suscite de l'impatience au sein d'une partie de l'opinion publique ouest-africaine, c'est la monnaie unique. Bernardin, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour Appel sur l'actualité.
Il faut absolument créer cette... Bon anniversaire à la CEDEAO. Bernardin, vous disiez qu'il fallait absolument concrétiser ce projet de monnaie unique.
Oui, il faut. 50 ans, c'est déjà l'âge de raison. 50 ans que la CEDEAO est créée, on a eu l'intégration économique, politique, sociale. Maintenant, il faut aller à la monnaie unique. J'avoue que l'exercice n'est pas facile. Beaucoup ne comprennent pas qu'au sein de la CEDEAO, il y a des pays francophones, il y a des pays anglophones, et que les pays francophones, eux, ils ont déjà leur monnaie unique qui est le franc CFA. Mais les pays anglophones, chaque État a sa monnaie. Et ce n'est pas le même niveau de développement. Alors, ces pays ont créé en 2000 ce qu'ils ont appelé la zone monétaire ouest-africaine. Et cette organisation doit amener ces six pays anglophones à avoir une monnaie pour pouvoir fusionner après avec la monnaie de la
Ouais, mais c'est, ce projet de monnaie, c'est un peu le serpent de mer. Ça fait des décennies qu'on en entend parler. Il est acté, hein, il est acté sur le papier, mais effectivement, il tarde à se concrétiser. Monsieur Ouattara, du ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire, quels seraient les avantages d'avoir une monnaie unique en Afrique de l'Ouest?
L'importance de cette monnaie, c'est de faciliter, c'est maîtriser l'inflation. Je pense que la difficulté, c'est le respect des critères de convergence. Mmh. Donc, c'est dans ce sens que la CEDEAO a mis en place un conseil de convergence qui travaille.
Critères de convergence, c'est-à-dire que tous les États membres doivent avoir déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB, etc.
Il y a des éléments, mais déjà, c'est pour assurer les uns et les autres que la CEDEAO travaille à cela. À partir du moment où on a des économies qui sont totalement différentes, qui n'ont pas les mêmes réalités, on a des choix stratégiques au niveau économique. Et pour mettre tout ça ensemble, les ministres des Affaires, des Finances et les gouverneurs des banques travaillent ensemble pour qu'on puisse avoir...
Travaillent ensemble, mais en même temps, voilà, c'est un projet qui s'éternise. Justement, qui veut prendre la parole, Oswald. Oswald Padounou, vous y croyez, vous, lorsque la CEDEAO dit, allez, lancement de la nouvelle monnaie, l'écho, en 2027. 2027, c'est demain, hein.
2027, c'est demain, et je pense que le cinquantenaire de la CEDEAO aurait été le timing parfait pour faire clairement les annonces sur les évolutions concernant les critères de convergence qui aujourd'hui ne sont pas respectés par la plupart des États. Donc, en tout cas, quand on regarde les processus d'intégration monétaire dans d'autres régions du monde, on voit qu'il ne suffit pas simplement de mettre les principes sur la table, mais il s'agit de mettre en place des politiques qui poussent les États à respecter ces critères de convergence et à tenir un calendrier. Je pense qu'aujourd'hui, pour les citoyens de la CEDEAO, c'est le chantier majeur parce que quand regardez les échanges économiques intra-CEDEAO, ils sont faibles. La plupart des États membres de la CEDEAO ont comme premier partenaire commercial des pays hors CEDEAO. Et c'est une anomalie. On a une intégration des peuples qui doit se construire sur des échanges commerciaux, sur des échanges économiques.
C'est-à-dire, si je vous comprends bien, je ne suis pas économiste, mais le fait d'avoir une monnaie unique permettrait d'avoir des produits régionaux moins chers?
D'une part, et en levant, il y a plusieurs conditions qui...
Les barrières douanières.
Et lever les barrières douanières.
D'accord.
Je pense que ça, c'est quelque chose qui va considérablement, parce que quand vous voyez effectivement, il y a au moins 5 ou 6 monnaies au niveau donc de la région. Mmh. Donc je pense que c'est quelque chose, pour moi, c'est le chantier majeur du nouvel âge de la CEDEAO aujourd'hui.
Abdourahmane Barry, l'écho, projet majeur des 10 prochaines années pour la CEDEAO?
Tout à fait, c'est le projet principal qu'il faut réussir. Mais une chose est sûre aussi, ce n'est pas forcément qu'on ait une monnaie commune qui fait de nous une économie. Il y a des réformes internes qu'il faut au niveau des États. Si vous ne pratiquez pas la bonne gouvernance, si les réformes structurelles ne suivent pas, même si on a la même monnaie, on n'est pas à l'abri des crises. La Grèce est un exemple parfait. L'euro n'est pas né facilement comme ça, mais l'euro, les pays de la zone euro rencontrent des difficultés. Donc il ne faut pas que les Africains pensent que demain, quand il y aura écho, tout va changer. Non, non, non. C'est un processus sur le long terme et c'est la responsabilité des États au niveau de la gestion.
Adama Ouattara, le mot de la fin.
Oui, je tenais vraiment à souhaiter un joyeux anniversaire à la CEDEAO. Je suis très optimiste parce que à 50 ans, c'est vrai qu'on a des petits bobos. Nous pensons déjà que la CEDEAO a des acquis. La CEDEAO a des acquis. La CEDEAO, ce n'est pas seulement que politique. La CEDEAO, c'est dans la santé. La CEDEAO, c'est dans la libre circulation. C'est
dans l'éducation
également.
C'est
dans l'éducation. La CEDEAO a tellement fait pour la sous-région que nous devons, nous, ensemble, les peuples, les institutions, se mettre ensemble pour permettre à cette structure, notre structure commune, communautaire, d'avoir vraiment des acquis, d'avoir des ressources, mais surtout de s'occuper des populations.
Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Adama Ouattara. Merci Oswald Padounou et Abdourahmane Barry. Demain, nous serons de nouveau à Abidjan pour une émission exclusivement consacrée à la BAD, la Banque Africaine de Développement, dont le siège se trouve ici même, dans la capitale économique ivoirienne, et dont le nouveau président sera élu demain. Une banque incontournable pour le développement du continent. Et comme pour la CEDEAO, j'ai envie de dire, elle a un déficit de communication, elle est très peu connue du grand public. Eh bien, son président, Akinwumi Adesina, sera à mes côtés pour répondre à toutes vos questions. Émission spéciale BAD demain, donc à 8h10, temps universel. Un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé à présenter cette émission. À mes côtés, Jessica Taïeb, Arès Iradag et Bertrand Éclair. À Paris, Benoît Van Der Broek, Sigrid Azerwal et Maud Georget. Fouque Foller pour les réseaux sociaux. À suivre dans 10 minutes, juste après le journal. Priorité santé avec Caroline Paré. Bonne journée, prenez soin de vous.
Crédit Express de Banque Atlantique vous a proposé appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.